Alors, on va poursuivre notre série ce matin dans l'Évangile de Jean. Nous sommes arrivés ce matin à la fin du chapitre 17, c'est à la page 702 dans les Bibles blanches de l'Église. Et c'est la fin de la prière de Jésus. Donc, dans nos traductions ici, c'est marqué la prière sacerdotale de Jésus. C'est la fin d'une section dans l'évangile de Jean, où Jésus, on l'appelle souvent le discours de la chambre haute. Et la semaine prochaine, dans le passage suivant, ça serait de nouveau un narratif, l'arrestation de Jésus, le procès, la croix, et puis on s'achemine vers Pâques. Je vais prier d'abord. Prions. Merci, notre bon Père Céleste, de ce que Jésus a prié pour nous. Merci de ce que nous sommes au bénéfice de cette prière. Merci de ce que dans ta bonté par l'Esprit, tu nous as conduit à Jésus un jour pour entendre ta parole, pour voir sa gloire, pour mettre notre confiance en lui. Et notre bon Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous avons besoin de ces paroles vivifiantes. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et nous te demandons vraiment d'être à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, ce matin, par cette parole annoncée, proclamée. Applique-la à nos cœurs par ton esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jean 17, verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je suis en eux. » Voici notre passage de ce matin. Alors l'unité entre êtres humains, c'est bien sûr une chose très difficile. Cette semaine, les Anglais sont censés quitter l'Union européenne, même si on sait que ce Brexit sera reporté. Et ça montre à quel point c'est dur de s'entendre. Bon nombre de pays ont connu des guerres civiles, fratricides. Et la France a connu des guerres de religion entre catholiques et protestants. L'unité dans la diversité, c'est quelque chose de difficile. Alors parfois, en fait, c'est une grâce parce que les êtres humains s'unissent pour faire le mal, pour dominer, pour exploiter. Donc parfois, c'est bien qu'on n'est pas trop unis, mais le plus souvent, le manque d'union engendre le chaos. Et on dit que l'union fait la force. Alors le christianisme, lui aussi, a connu des divisions historiques vers 1000 après Jésus-Christ, donc 1054. On peut dire, même si c'est sans doute trop simpliste, que l'Église chrétienne s'est scindée en deux, avec d'un côté les orthodoxes qui parlaient grec et de l'autre des catholiques qui parlaient latin. Et 500 ans plus tard, les protestants qui voulaient d'abord réformer l'Église catholique ont dû finir par quitter l'Église catholique. Et après, au sein du protestantisme, il y a une multitude de dénominations et d'unions d'Église. Pourtant, comme nous venons de lire dans ce passage, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. Vous avez sans doute remarqué pendant la lecture de ce passage, ce mot qui revient, un, parfaitement un. C'est un thème très très fort dans ce passage. Alors comme j'ai dit la semaine dernière, à bien des égards, Jésus dans cette prière est en train de demander à son Père d'accomplir sa volonté, de faire venir son règne. C'est comme s'il prie que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, comme on vient de chanter. Il a prié d'abord que le Fils soit glorifié pour que le Père soit lui-même glorifié. Et ça pour qu'un grand peuple puisse connaître Dieu, vraiment tel qu'il est vraiment, connaître le Fils et le Père, aujourd'hui comme dans l'éternité. Et ensuite, dans la prière, il a prié pour ses apôtres qu'il allait envoyer en mission dans le monde avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on a vu la semaine dernière comment il a prié pour leur unité, que Dieu les garde unis, qu'ils soient protégés par le moyen de la parole, pour que cette mission puisse aller de l'avant. Et ici, dans cette partie, Jésus enchaîne en priant pour d'autres, pour nous, croyants, qui avons cru en Jésus par le biais des paroles des apôtres, des siècles plus tard. Donc on lit ici, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, la parole des apôtres, notre Nouveau Testament. Jésus voit déjà, même si ce n'est pas encore donné, ce n'est pas encore donné à la croix, il anticipe déjà les effets de cette œuvre. Il voit que la parole sera proclamée, que les apôtres vont proclamer l'Évangile. Il va y avoir des fruits. D'autres vont venir à Jésus, ils vont mettre la confiance en Jésus, ils vont se soumettre à Jésus. La parole va s'étendre. D'autres vont croire en lui. Ce peuple va grandir. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est le cri du cœur de Jésus. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et si Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, c'est pour que d'autres croient en lui aussi. Il veut que le monde voit, il veut que le monde reconnaisse Jésus. C'est ce qu'on voit au verset 21 et 23. Il prie pour l'unité des croyants. Pourquoi ? Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Un peu plus loin, et qu'ainsi, ou afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. En quelque sorte, Jésus, comme j'ai dit, a prié pour que la volonté de Dieu se fasse. Il prie que Dieu bénisse son propre plan, le plan qu'il avait dès avant la fondation du monde, d'avoir un peuple à lui, qui le connaît, qui l'aime, qui lui obéit. Un peuple issu de toutes les nations de la terre. C'est ce qu'il a promis à Abraham, Genèse 12. C'est ce qui a été confirmé par les prophètes. Et la réalisation de ce plan passe par l'unité des chrétiens. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers la parole, afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et en quelque sorte, les enjeux sont de taille, rien de moins que l'évangélisation du monde. Mais peut-être en entendant ça, vous vous désespérez un peu parce qu'à bien des égards, les chrétiens, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ne sont pas si unis que ça. Quel espoir donc pour le monde. Et si on pense à l'évangélisation de nos quartiers, de nos lieux de travail, qu'est-ce qu'on doit prioriser ? Faut-il chercher des actions d'unité ? Est-ce que c'est ça ce qui est primordial, à entrer en dialogue, peut-être avoir des réunions de prière avec catholiques, orthodoxes, coptes, protestants, etc. Ou voilà, il faut qu'on s'investisse dans le CNEF ou dans le Conseil œcuménique des Églises. Est-ce que c'est ça la priorité ? Et ce passage pousse beaucoup à penser comme ça. Mais force est de constater que l'unité dont parle ce passage est d'abord une unité avec Dieu lui-même. Les chrétiens unis à Dieu par Christ. Même si cette unité va se voir, elle n'est pas simplement invisible. On a déjà vu dans l'évangile de Jean, Jean 13, que Jésus a dit à ses disciples, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, donc l'unité doit se voir. » Mais quelle est la nature exacte de cette unité et comment est-ce qu'on la vit ? Comment est-ce qu'on la vit ? Donc c'est ce qu'on va voir en parcourant ce passage. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit, que cette unité est très liée à notre unité avec Jésus, notre attachement à Jésus lui-même. Et donc le titre de cette première section, c'est « Gardons nos yeux fixés sur Christ ». C'est comme ça qu'on vit cette unité. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur Christ lui-même. Alors, Jésus prie pour notre unité, mais en fait, dans un sens, il nous a déjà donné le moyen de cette unité. C'est ce qu'on voit au verset 22. Dans un sens, il nous a déjà donné l'unité. Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc Jésus a déjà donné sa gloire aux disciples. Et ça veut dire qu'il a déjà donné aussi à l'Église à venir. Donc c'est chose faite. Même si sans doute Jésus anticipe, comme on a déjà vu il y a 2 semaines, il anticipe en disant ça, ce qu'il va faire lui-même à la croix, à la résurrection, à l'ascension. Donc en parlant de sa gloire, cette gloire qu'il nous a donnée, Jésus évoque tout ce qu'il a fait depuis le début de son ministère. Et ça jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension, la Pâque. On lit par exemple au chapitre 1 de l'évangile de Jean, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, donc c'est Jésus, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » C'est l'évangéliste Jean qui dit ça. « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. » Et donc Jésus, en parlant de sa gloire ici, parle de la révélation de son Père, de Dieu, en Jésus. Le Père que nous voyons en Jésus, lui le Fils, le vrai Fils qui est venu dans le monde. Tout au long de son ministère, on l'a vu, hein, par ses paroles, par ses actions, Jésus nous a montré le Père. Parce que ses paroles, les paroles que Jésus a dites, sont celles du Père. Les actions, les œuvres de Jésus sont celles que le Père lui a données de faire. Donc Jésus est vraiment la révélation du Père. Il est le reflet parfait du Père. On voit dans son humiliation, dans son service, on voit l'amour de Dieu. On voit Dieu. Le Père l'a envoyé par amour et le Fils se donne en obéissance à ce Père qu'il aime. Et donc en Jésus, nous voyons Dieu face à face. Et qu'est-ce que nous voyons ? Chapitre 1, on voit sa grâce, on voit sa vérité. On voit un Dieu d'amour extraordinaire, un Dieu qui a donné son Fils pour ceux qui le détestent, pour nous quoi. Cette gloire se voit d'une manière claire, on ne peut plus claire, au moment de la croix. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Là où le Fils sera glorifié et là où le Fils va glorifier son Père. Parce que c'est là, au moment de la croix, qu'on va voir d'une manière on ne peut plus claire toute la justice de Dieu. Il ne supporte pas le mal. S'il va pardonner, il doit punir le mal. On voit la sainteté de Dieu. On voit aussi sa compassion pour les pécheurs. Il donne son propre Fils. C'est là qu'on voit toute la tendresse qu'il a pour l'humanité. Et Jésus dit ici que « Je leur ai donné, je vous ai donné ma gloire. » Je vous ai donné cette révélation extraordinaire de qui Dieu est. Plus loin, donc c'est au verset 26, il fera référence à l'avenir. On peut lire le verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. » C'est un peu comme cette gloire qu'il nous a donnée. « Et je le leur ferai connaître encore. » Et ça rime avec ce qu'on a déjà vu au chapitre 14, avec l'envoi du Saint-Esprit. Qui va rappeler les paroles de Jésus, qui va glorifier Jésus. Nous qui vivons plus tard, qui avons mis notre confiance en Jésus, c'est parce que nous avons vu la gloire de Jésus nous-mêmes en lisant les paroles des apôtres. C'est par leur parole, comme Jésus dit au début de cette prière, que nous avons connu Dieu en Jésus. Nous avons contemplé sa gloire en lisant même l'évangile de Jean. Mais comment est-ce que cette gloire, cette connaissance, donne, produit l'unité des chrétiens? Et quand je dis l'unité des chrétiens, je parle de l'unité des chrétiens de toutes les époques, de tous les âges. Jésus a prié pour tous ceux qui vont croire après les apôtres. 1er siècle, 2e siècle, 10e siècle, 15e siècle, 20e siècle, 21e, de toutes les époques. C'est parce que cette gloire, cette révélation de Dieu le Fils qui nous montre le Père, nous a unis à Jésus, tous. C'est l'Évangile qui nous a unis à Christ, par le moyen de la foi. Les disciples, nous l'avons vu, ont été purifiés par cette parole d'Évangile, les paroles de Jésus. Comme Jésus a dit au chapitre 15, ils ont été taillés, purifiés par cette parole et attachés au cep, c'est ce qu'on voit au chapitre 15, par les paroles de Jésus. Par l'Évangile. Et c'est tout aussi vrai pour nous, 2000 ans plus tard. On a entendu l'Évangile. Par cet évangile annoncé, partagé, nous avons vu la gloire du Fils de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Et l'Esprit qui nous a convaincus de justice, de péché, nous a unis à Jésus. Et en Jésus, le cep, nous avons été unis les uns aux autres, à nos frères, de par le monde, et aussi à nos frères et sœurs de toutes les époques, de tous les siècles, peut-être d'une manière mystérieuse. On ne voit pas ce lien, mais ce lien est bien là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et donc, c'est une unité très, très forte. Jésus en nous, comme on l'a vu au chapitre 14, par l'Esprit, le Père et le Fils ont fait leur demeure en nous. Et cette union-là fait que nous sommes parfaitement un, les uns avec les autres, avec tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est grâce au fait que nous sommes attachés à Jésus, le cep. En quelque sorte, Jésus prie que d'autres soient unis à lui. Et par lui, unis au Père et unis les uns aux autres, tous les chrétiens de toutes les époques. Il prie tout simplement que l'Évangile crée un grand peuple, que la volonté de Dieu soit faite au fil des siècles, dans toutes les générations. Donc ça veut dire que cette unité n'est pas une question d'institution avec des hiérarchies humaines, des dénominations, des conseils, des évêchés, des diocèses, des unions, des associations d'Église. Toutes ces choses-là ont leur utilité. Il ne faut pas qu'on les méprise. Ces choses-là ont leur place, on en a besoin. Mais l'unité est centrée sur Jésus lui-même, sur cette parole, sur ce cep vivifiant, sur cette révélation de Dieu par le Fils, le vrai Fils, sur cette gloire. On vit notre union avec Jésus lui-même, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Nous sommes déjà unis à lui, et donc on vit cette unité en lui, en restant attachés à lui, comme on a vu au chapitre 15, en restant attachés au cep, par la foi en ses paroles. Quand on pense à des chrétiens ensemble, à la unité visible, je pense que Jésus veut nous rappeler d'abord et avant tout cet attachement à lui, la parole faite chair, la révélation de Dieu en lui. Mais en même temps, comment penser, comment réfléchir, comment répondre à cette désunion, cette désunité si visible dans l'Église? Je pense qu'on est constamment tenté de laisser nos yeux se tourner vers autre chose que Jésus. C'est fatalement humain. On se détourne de ce Christ crucifié, ressuscité, qui règne, celui en qui nous avons la grâce par la foi. Et historiquement, on quitte Jésus, on se détache du cep en quelque sorte, quand on se détourne de sa parole, c'est-à-dire la Bible, de cette révélation, quand on se détache de cette gloire qu'il nous a donnée. Par exemple, il me semble que les catholiques romains l'ont fait en élevant leur tradition au même rang que la Bible, en mettant l'Église elle-même à la place du Christ, ou plus récemment, en élevant Marie au rang de reine du ciel. À chaque fois, c'est le Christ que nous connaissons par les paroles de la Bible qui est détrôné. Ou au sein du protestantisme, la tentation a été, plus qu'une tentation, c'est même une réalité, c'était de larguer la parole en faveur de la philosophie. Ça s'est passé d'abord, minimum au XIXe siècle, et ça a éloigné l'Église de Jésus lui-même, du Seigneur historique, celui qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui est ressuscité corporellement d'entre les morts. Et dans les milieux évangéliques, on a tendance à laisser la parole de côté dans la quête d'expériences émotionnelles de plus en plus fortes, où on prône un évangile du bien-être, où on se focalise sur nos sentiments plus que sur Christ, où on suit des pasteurs stars qui vendent leurs bouquins, remplissent des salles, passent à la télé. Et le Christ qui s'est humilié, le Christ des Écritures, celui qui s'est humilié, qui a quitté la gloire, qui a vécu une autre gloire, celle de l'humiliation et la croix, est complètement mis de côté, détrôné Mais la vraie unité a lieu en Jésus-Christ lui-même, le Fils, l'authentique révélation de Dieu. Lui qui nous a donné sa gloire, une gloire tout autre, une gloire qui passe par l'humiliation. Une gloire qu'on voit et qu'on apprend par la parole des apôtres. Et par cette parole, nous avons une connaissance authentique de Dieu. Alors Jésus veut qu'un grand peuple vienne à lui, que le monde reconnaisse qu'il est vraiment le Fils du Père. Et cette reconnaissance passe par une Église qui est vraiment attachée à Jésus, au Christ. Le vrai Christ, celui des Écritures, celui qu'on connaît par les paroles des apôtres. Parfois, ça nous arrive de rencontrer des personnes qui aiment Christ, qui aiment ce Christ des Écritures, qui viennent d'autres traditions avec lesquelles on a parfois du mal et a raison parce que ces traditions ont quitté les Écritures à plein des égards. Mais on discerne dans ces personnes un vrai attachement à Jésus. Et ça nous fait du bien, c'est vraiment une bonne chose. Merci Seigneur. Et c'est parce qu'ils ont été unis à Jésus, parce qu'ils connaissent ce Jésus des Écritures. Parce que la vraie unité de l'Église, ce n'est pas dans les institutions, dans les structures, mais c'est autour de ce Jésus-là, ce Jésus de la parole, de la Bible, ce Christ des Écritures. Et pensons à nous-mêmes, pensons au chapitre 15 et ce défi de rester attaché au Seigneur. Prions qu'on reste attaché dans notre communion, dans notre proclamation de la parole à Jésus lui-même, à cette gloire révélée dans la parole, la gloire de Jésus. L'unité de l'Église en dépend, et l'unité future aussi, parce que c'est seulement quand Jésus, le vrai, est proclamé que d'autres croient en lui, viennent à lui, mettent la confiance en lui, sont unis à lui, et que cette prière de Jésus s'accomplit. Restons attachés à Jésus, gardons nos yeux fixés sur lui. Lui, il est au centre de cette unité. J'aimerais passer à un deuxième point, plus bref, et c'est voir à voir avec la conséquence de cette unité. C'est l'amour que nous avons dans cette unité, dans cet attachement à Christ. Réjouissons-nous de l'amour de Dieu en Christ, c'est notre deuxième point. C'est le fruit de cette union. Cette union nous a donné de nous savoir aimés par Dieu. Elle nous a donné son amour. Et cet amour-là est aussi un témoignage. C'est par cet amour que le monde voit, reconnaît que Jésus est vraiment Seigneur. Au verset 23, nous apprenons que le monde reconnaîtra que les chrétiens sont aimés par le Père du même amour dont il a aimé le Fils. Je cite, « Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et Jésus, dans sa prière, parle de nous, de ceux qui avons cru plus tard, grâce aux paroles des apôtres. Nous sommes aimés de Dieu, c'est la conséquence de cette union. Dans le célèbre verset de Jean 3, qu'on a chanté ce matin, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est le Père qui nous a aimés, c'est Jésus qui nous a montré ça. Le bon Père céleste nous a aimés. Un Père d'amour, de tendresse, de bienveillance. Et grâce à Jésus, grâce à la gloire qu'il nous a donnée, cette révélation, on sait maintenant qu'il nous aime. Nous savons que ce Père nous est favorable, qu'il nous aime, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, Romains 8. Nous savons qu'il nous aime. Et ça, c'est au cœur de notre expérience en tant que chrétien. Alors, sur le plan émotionnel, non sans des hauts et des bas, non parfois sans difficultés. On est tous différents, on a eu des parcours différents, parfois avec des bonnes et des mauvaises expériences, et parfois sur le plan psychologique, le plan émotionnel, a peut-être parfois du mal à toujours vivre ça. On est fragile, mais petit à petit, l'œuvre de la parole par l'Esprit nous révèle cette bonté de Dieu. Il nous aime. Il est un Père qui nous a aimés en Christ. Et Dieu veut que chacun de nous qui avons mis notre confiance en Jésus sache vraiment à quel point il nous aime. Ailleurs, dans la première lettre de Jean, de l'apôtre Jean, il nous dit que l'amour parfait chasse la peur, parce que la peur présuppose un châtiment. Et Jean évoque, je pense, le châtiment que Jésus a pris à notre place. Il n'y a plus de peur, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, grâce à Jésus, on connaît l'amour de notre Père. On est ses enfants adoptifs. Donc, parfois, on reproche à la foi évangélique classique, on peut appeler ça la foi de la réforme protestante, d'être trop intellectuelle. On parle tout le temps de la parole. Même ce matin, on étudie la parole. On utilise la parole dans la prière. Mais bien comprise, elle reflète une spiritualité que Dieu nous a donnée en Jésus. La révélation de sa gloire. On voit ça dans les paroles des apôtres. Et on goûte à l'amour de Dieu lui-même. Ce n'est pas en cherchant des expériences mystiques dans le silence peut-être, ou dans des expériences sacramentales, en cherchant des choses, par exemple, dans le repas du Seigneur, ou en cherchant des expériences extatiques, peut-être dans la danse ou la musique. C'est en entendant cette révélation de sa gloire dans la parole des apôtres, en appliquant, en méditant cette parole. C'est en méditant sa parole qu'on rencontre ce Père d'amour qui nous a aimés, qui nous a réconciliés à lui-même, ça lorsque nous étions ses ennemis. Et en Église, on veut être cette communauté qui s'encourage mutuellement à vivre cet amour. On parle peut-être comme là maintenant de cet amour du haut de la chair, mais on a besoin de nous parler les uns aux autres de cet amour, dans les situations difficiles, dans les amitiés, dans les groupes de maison, au sein de nos mariages. On a besoin de faire réverbérer en quelque sorte cette parole. Dieu vous aime. Il vous aime vraiment. Il vous aime beaucoup plus que vous ne le pensez. Et ça, c'est un message dont nous avons tous besoin. Peut-être un défi, ça serait de le dire peut-être à un frère, une sœur cette semaine, de rappeler cette chose. Dieu vous aime. Et cet amour témoigne au monde. Le monde le voit, un peuple qui est conscient d'avoir été aimé, d'être aimé par Dieu par grâce, simplement par grâce, malgré nos fautes. Malgré nos imperfections, nous avons un Père qui nous aime. Le monde voit un peuple édifié par cet amour immérité. Un amour qui se partage, un amour qui se donne, à l'instar de Jésus, celui de Jésus. À la fin de notre passage, verset 26, il parle du fait que nous avons en nous-mêmes l'amour de Jésus, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est l'amour qui se donne. Entre nous, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et donc cette unité en Jésus, cet attachement à Jésus, donne cet amour qui parle, qui témoigne. On va passer à une troisième piste qui parle, qui évoque aussi notre unité. Et je pense aussi peut-être une troisième piste qui évoque cette unité visible qu'on aimerait avoir, qui nous fait défaut peut-être dans ce monde. Et c'est vers la fin de la prière de Jésus. Et j'ai appelé cette troisième partie « Languissons-nous après notre vrai chez nous ?» Peut-être après notre vraie unité. Et là, on arrive à la fin de cette section de l'Évangile de Jean. Ça clôture en quelque sorte ce discours de la chambre haute. Et Jésus revient là au moment à ce qu'il a commencé au début. Au début, au chapitre 14, il a parlé du fait qu'il devait partir pour nous préparer une place. Il va auprès de son Père pour nous préparer une place. Et s'il prépare une place, il reviendra nous chercher. Et à la fin de la section, il parle encore du fait qu'il veut nous chercher, qu'il veut nous avoir auprès de lui dans l'éternité. Il demande à son Père qu'on soit avec lui. Verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Là, Jésus évoque une unité forte, une unité visible, palpable, quasiment physique. On sera là avec Jésus. Et Jésus nous oriente vers notre avenir. Il invite à nous languir après cet avenir, après cette unité visible, avec lui, dans notre vrai chez nous. Et cette espérance-là qui découle de notre attachement à Jésus nous démarque aussi du monde, un monde sans espérance. Et cette espérance que nous avons parle, Elle témoigne une Église attachée à Jésus-Christ, au CEP, qui a la révélation du Père en Jésus. Elle connaît vraiment l'amour de Dieu. Et du coup, elle espère en Dieu. Et cette Église est attractive. Par cette Église, le monde reconnaît que Jésus est vraiment Seigneur. Jusqu'ici, les disciples ont goûté à la gloire de Jésus de manière voilée. Mais Jésus a un vif désir que les chrétiens contemplent sa gloire sans voile, qu'ils voient cette gloire auprès du Père, telle que Jésus avait avant la fondation du monde, telle qu'il a dans l'éternité. Et cette gloire qu'on va voir n'est pas une gloire qui est fondamentalement différente de celle que nous avons déjà reçue en Jésus par les Écritures. Mais on va y goûter sans voile, de plus près. On va vivre cette union, cette unité devant lui face à face. On va voir sa sainteté, on va voir sa pureté, sa bonté, sa bienveillance, d'une manière plus directe avec lui dans sa présence. Dans un sens, c'est ce qu'il a déjà dit au début de la prière. Il a parlé du fait que la vie éternelle, c'est connaître le Père et connaître le Fils. C'est simplement avoir plus de lui. Cette vie éternelle, c'est relationnel, c'est restaurateur, c'est avoir plus de Dieu. C'est comme Jésus a dit dans les Béatitudes, dans le Sermon sur la montagne, c'est avoir Dieu, c'est voir Dieu, c'est avoir le royaume, c'est être avec lui. Et c'est l'espérance de tous ceux et celles qui ont été attachés à Jésus, au CEP. Ceux qui ont goûté à cette gloire, qui ont reçu sa gloire au début, qui ont été attachés à Jésus, veulent plus de cette gloire-là. Donc une Église authentique, c'est celle qui veut plus de Jésus, qui a goûté à Jésus et qui veut encore plus de Jésus. Elle veut voir la gloire de Jésus, cette gloire qu'elle a déjà goûtée dans les Écritures. La gloire d'un Fils qui s'est humilié, qui s'est donné, qui nous a servi avant d'être exalté à la plus haute place. Et Jésus nous invite à fixer notre regard sur cet avenir, qui est Jésus lui-même, à nous languir après notre vrai chez-nous, chez lui, à nous languir après cette unité visible à venir. Encore une fois, c'est quand Jésus lui-même est déplacé, détrôné, mis à la périphérie, que cette espérance est sapée. Quand on met par exemple, la justice sociale comme notre priorité, la première priorité, c'est une bonne chose, la justice sociale. Mais quand on commence à nous intéresser à autre chose en premier que Jésus lui-même, que la gloire de Jésus, ça sape notre espérance. On a besoin de garder Jésus au centre si on veut vivre cette unité. Une Église qui est vraiment attachée à l'Évangile, le Christ de l'Évangile, se sait aimée de son bon Père céleste. Et c'est une Église qui déborde d'espérance. Et cette Église-là, elle est profondément attractive, même de manière humble. Même si dans le monde, on voit beaucoup de désunité en quelque sorte. Mais cette Église, la vraie, qui est attachée à Jésus, qui se sait aimée, qui a cette espérance, elle est attractive. Donc si nous, on veut que nos amis, nos collègues, nos voisins soient touchés par l'Évangile, il faut qu'on soit de plus en plus attaché à Jésus, à l'Évangile, à cette gloire qu'on voit sur les pages de l'Évangile de Jean, par exemple, et qu'on soit de plus en plus rempli de cet amour et de cette espérance. Jésus a prié pour qu'on soit unis à lui d'abord, unis au Sauveur, au Seigneur, qu'on le connaît vraiment, et unis par lui les uns aux autres. Une unité relationnelle, spirituelle, autour de Jésus, qui se vit par Jésus, qui se donne à voir après aussi dans notre amour les uns pour les autres. Mais ce n'est pas en cherchant une unité institutionnelle que nous allons témoigner au monde. Parfois, ça dépend des fois, mais c'est souvent le cas que c'est diluer la vérité, être moins attaché à Jésus. Mais c'est simplement en étant de plus en plus attaché à Jésus, à cet évangile de grâce en lui. C'est ça ce qui nous donne cet amour, c'est ça ce qui nous fait déborder d'espérance. Et ces deux choses-là, l'amour et l'espérance, c'est ce qui fait cruellement défaut dans notre société. La société a soif d'amour et d'espérance. Et on vit ces choses dans notre attachement à Jésus. Prions donc qu'on reste attaché à l'Évangile, à Jésus. et en étant attaché à cet évangile, la gloire de Jésus, le Fils qui s'est humilié, qui s'est sacrifié, qui est ressuscité corporellement, ce Fils qui règne, ce Fils qui revient nous chercher, en étant attaché à lui, coûte que coûte, c'est comme ça que le monde va entendre la bonne nouvelle et voir les fruits de l'évangile dans nos vies et venir à lui. Donc prions. Notre bon Père Céleste, on reconnaît que nous sommes bien fragiles et faibles et notre tendance est de chercher notre unité ailleurs qu'en Jésus, à chercher notre bien-être parfois ailleurs qu'en Jésus. Et dans l'histoire du christianisme, on fait ce triste constat qu'on s'éloigne, on a tendance à nous éloigner de la parole, de l'évangile, du Christ historique, du Christ qui s'est donné pour nous. Notre bon Père Céleste, nous ne sommes pas plus forts, meilleurs que d'autres. Cette tendance est aussi la nôtre. Dans ta grâce, fais en sorte qu'on reste attaché au cep, humblement, simplement, dans notre faiblesse à Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de l'Esprit. Enracine-nous de plus en plus en Jésus, dans la fidélité aux Écritures, pour qu'on soit rempli de ton amour, rempli d'espérance, et pour que nos amis, nos collègues, nos voisins puissent voir, reconnaître que ce Jésus en qui nous avons cru est vraiment Seigneur. Nous te demandons cela en son nom. Amen.